À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois...
Stéphane Honoré-Rousseau, historien, il en faut.
Cinquième épisode, Regardez la guerre. Bonsoir Stéphane Honoré-Rousseau.
Bonsoir.
On l'a vu tout au long de cette série dont nous entamons ce soir le dernier épisode, la guerre et son cortège de deuil, de silence, de violence ont été partout dans votre trajectoire, tant personnelle que professionnelle. De votre famille, touchée par la Première Guerre mondiale, à l'étude minutieuse pendant 40 ans de ces 4 années et demie qui ont ouvert le XXe siècle, et des traces qu'elles ont laissées jusqu'à aujourd'hui, en passant par le génocide des Tutsis au Rwanda, qui vous a percuté de plein fouet. C'est une vie d'historien en quête de compréhension de l'homme combattant qu'on a retracé au cours de cette semaine. Vous nous avez expliqué hier comment vous travaillez et ce que peut l'histoire ou ce qu'elle ne peut pas. Pour ce dernier épisode, c'est sur cette anthropologie du fait guerrier que j'aimerais qu'on s'arrête. Alors première question, peut-être un peu océanique. Pourquoi les historiens, Stéphane Honoré-Rousseau, ne s'intéressent-ils, en tous les cas, dans la majorité des cas, peut-être Alain Corbin est-il là pour nous contredire, mais pourquoi, au fond, les historiens ne s'intéressent-ils qu'aux batailles, aux guerres, aux massacres, aux génocides, c'est-à-dire aux bas instincts de l'homme, à la pulsion de mort, au mal, plutôt qu'au bien avec un grand M et un grand B?
Ah, pour un historien comme moi, c'est une question évidemment provocatrice. D'abord, je vous dirais que l'histoire comme discipline a partie liée avec la guerre depuis ses origines. C'est pour dire la guerre que l'histoire naît dans la Grèce ancienne, avec Hérodote, qu'elle se confirme en quelque sorte, cette histoire liée à la guerre, donc avec Thucydide. L'histoire a partie liée avec la guerre dès l'origine, et donc il est assez logique cette alliance très ancienne se soit finalement confirmée. Deuxièmement, au fond, les historiens se sont rendus compte, de génération après génération, ils ont raison, que la guerre reste un événement majeur des sociétés.
Et qu'elle questionne notre humanité.
Elle questionne notre humanité, mais bon, voilà, Héraclite le dit très tôt. Polémos est père de toutes choses et de toutes après lui, il est le roi. Avec une autre traduction, si vous voulez, Polémos est père de toutes choses et de toutes choses. Cette phrase reste, si je puis dire, agissante aujourd'hui, peut-être plus que jamais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes. Et donc, je crois que la question, ce serait plutôt pourquoi tant d'historiens et tant de spécialistes des sciences sociales ne regardent pas la guerre.
Oui, parce que c'est ça, vous dites en même temps que c'est en tous les cas, ça a été longtemps un impensé des sciences sociales, la guerre.
Parce que la guerre, et là vous avez raison, la guerre est un objet détestable au sens strict du terme. C'est un objet que l'on déteste et que l'on veut détester.
Il fait peur aussi.
Et bien sûr. Et en outre, c'est non seulement un objet détestable, mais c'est un objet obscène. Il y a une obscénité de la guerre. Il suffit de voir des cadavres dans une rue d'Ukraine aujourd'hui, laissés par les troupes russes, pour voir cette obscénité de la mort à la guerre en particulier. Obscenus, en latin, ça veut dire de mauvais présages. Celui qui parle de la guerre, celui qui s'y intéresse, celui qui la met devant les yeux de ses contemporains, et l'historien, c'est exactement ce qu'il fait, eh bien, peut toujours être soupçonné d'annoncer, d'être celui qui annonce le malheur, et peut-être d'être celui qui le veut, qui souhaite au fond, amener le malheur guerrier dans la société à laquelle il appartient.
Fasciné par son propre objet de recherche.
Voilà.
C'est votre cas.
Alors fasciné, que dire? Vous ne pouvez pas travailler un objet de recherche comme celui-là sans investir profondément dans sa compréhension. Et donc, en regardant les images, en écoutant les témoignages, vous êtes forcément constamment dans cet objet, si vous voulez le comprendre. Vous êtes obligé de le prendre avec vous. Ça m'est souvent reproché dans mon entourage, et je le comprends très bien. Mais il faut savoir ce que l'on veut. La guerre, je crois, c'est l'expérience personnelle la plus importante que puisse traverser un individu, soldat ou civil. Et il y a une chose qui vous le prouve de la manière la plus indiscutable. C'est que les gens qui ont vécu une grande expérience de guerre, une expérience de guerre traumatisante, c'est leur, au moment de leur mort, c'est là qu'ils sont. C'est ces souvenirs-là qui reviennent au moment de la confusion, de l'agonie. Ce sont ces souvenirs-là qui reviennent. Les souvenirs du combattant de 14-18, le souvenir du camp, le souvenir de la bataille, le souvenir du bombardement, etc. C'est ça qui revient. Donc c'est ça qu'il y a de plus profond. Et donc, si on veut s'intéresser aux acteurs sociaux, il me semble que les sciences sociales, leur travail, c'est de s'intéresser aux acteurs sociaux, eh bien, on est obligé hein, de s'intéresser donc à la guerre, de s'intéresser aux faits guerriers. On pourrait discuter de cette terminologie. On en discutera peut-être. On est obligé de s'y intéresser parce que sinon, on passe à côté de quelque chose d'essentiel pour les sociétés et pour les individus. Alors, je veux bien qu'on se complaise dans une forme d'inconscience ou une forme de déni, mais moi, personnellement, ma position, c'est qu'il faut regarder la guerre bien en face. Et j'ai de ce point de vue une citation d'un grand anthropologue amazoniste, qui s'appelle Pierre Clastre, qui, dans les années 70, a lancé cette phrase qui valait pour son terrain, mais que je m'approprie en le déplaçant sur, notamment sur le monde occidental. Hein, se tromper sur la guerre, c'est se tromper sur la société. Et je crois que c'est ça hein, qui m'anime. Hein, je ne veux pas, si possible, me tromper sur les sociétés, sur la mienne, sur les autres. Et donc, j'essaye de ne pas me tromper sur la guerre.
Je me souviens, Stéphane Audouin-Rouzeau, d'une conversation avec l'historienne Michel Perrault à propos de l'anthropologue Françoise Héritier. Elle disait, Michel Perrault, à quel point leur conversation à toutes les deux avait été féconde, très riche, mais aussi différente. Parce que l'historienne, disait-elle, n'est pas l'anthropologue et vice-versa. Michel Perrault disait que, et elle le dit toujours d'ailleurs, que l'histoire pense les changements et l'anthropologie les structures. Que les anthropologues sont des obsédés de l'invariant et les historiens des obsédés du changement. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah, je pense que c'est très vrai. Je pense que c'est très vrai et c'est la grande difficulté d'une anthropologie historique de la guerre. C'est vraiment sans doute sa difficulté majeure. Effectivement, tout changement, même minime, hein, intéresse l'historien. C'est ça. Parce que l'histoire, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, n'est pas une science du passé, c'est une science du temps. Et donc, par conséquent, une science du changement. Une discipline du changement. Alors que, dans une certaine forme d'anthropologie, enfin, effectivement, l'anthropologie de Françoise Héritier est caractéristique, et bien, Françoise Héritier le disait très nettement. Voilà. Et dans son travail magnifique, d'ailleurs, sur la violence et sur le genre. Et sur le genre dans la violence. Françoise Héritier disait, voilà, découvrir les invariants, c'est le propre, hein, de l'anthropologie. Alors, là où la guerre facilite tout de même un peu les choses, c'est que la guerre met j'aime bien parler du fait guerrier pour désaffecter un petit peu le mot guerre, où je parle aussi volontiers d'activité guerrière, c'est-à-dire d'anthropologiser les mots qu'on pose sur les choses modifient les choses elles-mêmes. Hein. En parlant de fait guerrier, d'activité guerrière, j'ai toujours l'impression de désaffecter quelque peu hein, cet objet brûlant hein, qu'est la guerre, et donc de le mettre un petit peu plus à distance. Et de le considérer comme une activité sociale, si je puis dire, comme une autre. Je sais bien que la guerre n'est pas une activité sociale comme une autre. Hein. Mais, méthodologiquement, je trouve intéressant de tenter hein, de la banaliser un peu. Donc le fait guerrier, voilà, comme il y a un fait guerrier, un fait culturel comme un autre, voilà, le fait industriel, vous voyez, quelque chose de ce genre, ou l'activité guerrière, voilà, une activité humaine comme une autre.
Et de voir la porosité entre les différents temps de guerre et de paix.
Alors, justement. La porosité, enfin, là où, à mon avis, s'il y a un endroit, je vais dire les choses de manière peut-être un peu brutale, s'il y a un endroit où l'histoire et l'anthropologie peuvent se rencontrer, c'est précisément sur la guerre. Parce que la guerre met en jeu, déploie, disons, des phénomènes fondamentaux. La vie et la mort, bien sûr, hein, qui permettent de reconnaître la guerre par rapport à d'autres activités humaines. Le corps, bien sûr, la peur, la terreur, la violence, la cruauté. Par conséquent, il y a là un socle un socle extraordinairement solide, hein, qui à chaque fois, bien sûr, s'inscrit dans une configuration spécifique, qui est le propre, évidemment, des configurations historiques. Mais on a là un lieu où on peut à la fois avoir la spécificité du moment, hein, du moment historique, et quelque chose de fondamental, hein, qui touche effectivement à notre humanité. Et qui touche, disons, pour parler un peu comme Françoise Héritier, au socle de notre humanité. Hein, ce moment où, que Marcel Mauss décrivait en disant le moment où on touche le roc. Eh bien, je crois que l'étude de la guerre, et d'un point de vue anthropologique, et d'un point de vue historique, permet de toucher le roc, et en même temps, d'être absolument sensible à la variation.
Est-ce que, pour utiliser d'autres mots, vous êtes capable aujourd'hui, Stéphane Audouin-Rouzeau, de faire émerger des permanences et des ruptures dans le fait guerrier ? Les atrocités, les atteintes à la filiation ont l'air d'être permanents. J'ai une question par rapport à ça. Par exemple, le basculement dans la guerre. Le fait qu'on passe quand même d'un temps de paix à un temps de guerre, il y a un moment où on déclare la guerre. Donc, on passe en un temps de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, en 14, vous avez montré que ce basculement, il avait été finalement assez rapide et assez facile. Est-ce que, par exemple, ça, c'est toujours le cas?
Eh bien, malheureusement, il faudrait des expériences qu'il ne faut pas souhaiter pour pouvoir dire que c'est toujours le cas. Nous sommes confrontés à des situations toujours différentes. Néanmoins, puisqu'on parle de basculement, il y en a un, je crois, hein, qui est très important, c'est ce que j'appelle le basculement de la guerre moderne. C'est-à-dire ce basculement dont nous sommes, que nous le voulions ou non, les enfants, notamment, évidemment, en Europe occidentale. Et c'est un basculement qui s'inscrit, disons, dans la période 1904-1905, la guerre russo-japonaise, jusqu'à 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. Ce moment où un nouveau type de guerre émerge, qu'on a appelé parfois, effectivement, la guerre totale, mais le terme n'est pas très bon parce que la guerre n'est jamais totale. Mais disons, une guerre qui mobilise, hein, qui tend à mobiliser la totalité des sociétés sur une très longue période, au prix de pertes humaines sans aucun précédent. Hein, sur les champs de bataille, avec des modalités, hein, de combat qui jamais n'étaient apparues avant, c'est-à-dire une guerre de siège réciproque, en quelque sorte, sur des centaines de kilomètres, hein, et pour finalement des résultats non conclusifs jusqu'au moment où un des deux protagonistes s'effondre. La guerre moderne, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler la guerre moderne, donc, qui s'est répliquée lors de la Deuxième Guerre mondiale, et dont on trouve dans la guerre russo-ukrainienne actuelle une modalité, hein, également très, par certains côtés, très proche, hein, des expériences du premier et du second conflit mondial. Eh bien, cette guerre moderne a vraiment été la matrice de notre temps. Et là, il y a un basculement absolument indiscutable. Il n'empêche que si on descend au ras du sol, comme j'aime souvent le dire, si on descend au niveau des soldats, hein, si, en particulier, qui est vraiment si je puis dire, le groupe social, hein, qui m'intéresse le plus, se repose, et elles se reposeront éternellement, des questions qui sont liées à la peur, à la violence extrême, à la terreur sous le bombardement, à l'expérience, à l'épuisement des corps, à l'atteinte à la barrière anatomique, à la douleur corporelle, à la douleur psychique. Et ceci, hein, ce sont des questions qui sont d'ordre anthropologique.
Je vous ai déjà entendu dire, par exemple, comme basculement anthropologique lié à la Grande Guerre en tout cas, que à propos des soldats, qu'ils se sont couchés. Et que ça constitue vraiment un basculement anthropologique. Ils étaient debout avant pour faire la guerre, et dans la Première Guerre mondiale, ils se sont souvent retrouvés à plat ventre.
Ah, c'est typiquement, effectivement, une question anthropologique. Hein. La guerre jusqu'au conflit russo-japonais de 1904-1905 est une guerre de soldats debout. On est debout parce que l'arme, le fusil d'infanterie, exige d'être debout pour le recharger, mais également on est debout parce que on veut être debout. Hein, la violence, hein, s'inflige et elle est subie debout. Hein, d'où ce très beau mot d'un sous-officier à un novice dans la ligne, Donc pendant les guerres napoléoniennes, pendant une bataille napoléonienne, on ne baisse pas la tête. Hein, ça, voilà, on reçoit la violence debout et on l'inflige de la même manière. Avec l'armement moderne, ça n'est plus possible. Le basculement se fait déjà, commence à se faire sentir, en fait, dès les années 70, 80. Mais vraiment, le moment où les soldats sont obligés de se coucher, dans le sol, y compris dans la boue s'il le faut, obligés aussi de se vêtir, de manière invisible, alors qu'il s'agissait au contraire à la bataille auparavant d'être le plus visible possible. Eh bien, ce moment, c'est vraiment la charnière de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et c'est évidemment, du coup, une modification profonde de l'image même de la guerre et de l'image de soi à la guerre. C'est tout un héroïsme qui disparaît, qui meurt dans cette transformation des pratiques motrices et dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez, Stéphane Audouin-Rouzeau, de la présence de la guerre autour de nous, un peu partout, peut-être même de cette banalisation du fait guerrier que vous souhaitez, je crois, quand même circonscrire à quelque chose d'assez précis dans vos termes, dans la terminologie en tout cas, alors même que pour nous, la guerre est partout. Il suffit de constater que le vocabulaire martial s'est imposé au moment des attentats terroristes, au moment de la pandémie de Covid. Alors, est-ce que c'est obscène pour vous, ou est-ce que malgré tout, là aussi, d'un point de vue anthropologique, ça se justifie parce qu'il peut y avoir des parallèles possibles?
La question est très difficile. C'est vrai que personnellement, je goûte pas beaucoup le fait que le vocabulaire guerrier soit rabattu sur des phénomènes sociaux qui, de toute évidence, ne s'apparentent pas à la guerre. Mais en tant qu'historien, je suis bien obligé de le constater, de me poser des questions sur cette porosité et cette, au fond, cette utilisation très large du vocabulaire guerrier pour nommer autre chose que la guerre. À dire vrai, la guerre, nous la détestons et nous devons la détester, mais elle est extraordinairement présente dans nos vies et dans notre vie sociale. Alors, la guerre, elle est présente dans l'enseignement. Tous les élèves de France donc entendent parler de la guerre massivement en classe de troisième, en classe de première, en classe de terminale. Elle est présente à l'université pour ceux qui font de l'histoire, bien sûr. Elle est présente dans la filmographie. Elle est présente dans les jeux vidéo. Elle est présente
dans la littérature.
Dans la littérature, ô combien. Elle, dans la bande dessinée, elle imprègne en fait tout notre univers culturel. La question que je me pose, et que je me la pose comme enseignant, et je me la pose particulièrement depuis le début de la guerre russo-ukrainienne du 24 février dernier, c'est comment nous y sommes pris, nous, en particulier les enseignants, pour enseigner la guerre de telle sorte que l'événement guerrier, que le fait guerrier soit reçu dans notre société comme un passé qui jamais ne reviendrait vers nous. Ça, c'est une question difficile, une question douloureuse pour ceux qui sont en quelque sorte en charge d'enseigner ce type de sujet, de les populariser, de prendre la parole dans la cité, comme je le disais tout à l'heure. Tout se passe comme si la guerre nous entourait, que le vocabulaire guerrier contamine effectivement la vie politique, la vie sportive, la pandémie, s'il y a un événement auquel il faut attribuer un sens qui n'est pas évident, les attentats du 13 novembre, etc. Donc la guerre est partout, le vocabulaire guerrier est partout, et pourtant, nous, face à la guerre, nous pensons qu'elle fait partie d'un passé définitivement révolu. Alors que, évidemment, ça ne peut pas être le cas.
D'où le saisissement, d'où la sidération face à l'invasion et l'offensive russe en Ukraine du 24 février 2022, Stéphane Audouin-Rouzeau peut-être, où on s'est mis à parler d'un retour de la guerre comme si elle avait disparu. Alors il y a 30 ans, par exemple, il y a eu une guerre en ex-Yougoslavie, mais peut-être aussi cela est-il d'un fait différent, d'un type de guerre différent, vous allez nous le dire. Mais enfin, c'est vrai que cette impression d'avoir totalement mis la guerre en dehors de nos sociétés est très fort.
Alors oui, tout se passe comme si nous pensions avoir réalisé la parousie, en quelque sorte, d'un monde définitivement débarrassé de la guerre, en termes, la guerre en tant que mode de relation hein, entre les nations. C'était un vieux rêve des libéraux du 19e siècle et dans le cas de l'Union européenne, nous pensions avoir finalement réalisé ce vieux rêve, en même temps d'ailleurs que nous avions exclu le fait militaire de la vie de la plupart des gens, avec la disparition effectivement des services militaires hein, et l'enclavement en quelque sorte du fait militaire dans des armées de métiers donc très restreintes hein, numériquement sur le plan sociologique. Nous avons vécu en fait dans cette illusion. Et d'où, là, effectivement, vous avez raison, la stupeur face au retour d'une guerre interétatique
Europe,
et de haute intensité en Europe, ce que n'était pas la guerre d'ex-Yougoslavie, qui était une guerre intra-étatique. Et d'ailleurs, il ne manquait pas de bons esprits pour dire que la guerre interétatique, maintenant, s'était terminée. Hein, eh bien, évidemment, les experts se trompent toujours. Hein, et la guerre interétatique est revenue en Europe, donc avec la violence que nous savons. J'ai été en tant qu'historien et en tant qu'historien de la Grande Guerre, j'ai été extrêmement frappé de voir à quel point la possibilité d'une attaque russe contre l'Ukraine dans l'ensemble, cette possibilité était refusée, en fait, par la plupart des experts académiques, chancellerie, services de renseignement, au nom d'un extraordinaire argument, déjà employé avant 14, c'est que la Russie, il serait irrationnel hein, qu'elle mène cette attaque parce que elle avait d'autres possibilités hein, de faire prévaloir en quelque sorte ses vues. C'est exactement ce que pensaient certains experts également avant 1914, qui disaient qu'il serait complètement irrationnel hein, que les grandes puissances européennes se fassent la guerre, hein, compte tenu de leur interdépendance mutuelle. Elles vont se faire beaucoup de mal les unes aux autres, sans bénéfice. Et donc, eh bien, puisque c'est irrationnel, la guerre, elles ne la feront pas. Voilà, ce raisonnement absurde, hein, nous l'avons, et qui est absurde, on sait aujourd'hui qu'il est absurde, hein, parce que la guerre de 14 a évidemment a éclaté sans que les décideurs ne pensent une minute à cette irrationalité supposée hein, de l'entrée dans le conflit. Eh bien, ce raisonnement absurde, nous l'avons réédité. Hein, entre novembre, décembre 2021 et février 2022. Et je dois dire que, comme historien, c'est une leçon étonnante. Et ce n'est pas le seul déni, d'ailleurs, que nous avons, auquel nous sommes adonnés, hein, quand nous avons découvert hein, les atrocités commises par l'armée russe autour de Kiev. La stupeur a été très grande également. Et qu'est-ce que l'on croyait? On croyait que l'armée russe allait aider les vieilles dames à traverser la rue? Est-ce qu'on sait ce que c'est que la guerre moderne? On devrait le savoir, compte tenu de notre expérience historique, de tout ce que nous avons appris sur la guerre, mais c'est comme si il fallait que nous refassions complètement notre apprentissage. Et ces lignes de déni successives signalent, à mon avis, enfoncées les unes après les autres, signalent l'ampleur de notre inconscience, effectivement, le fait, au fond, je le dis avec peine, hein, en tant qu'historien, que nous n'avons peut-être pas réussi à enseigner la guerre comme il convenait.
Comment aurait-il fallu faire?
C'est très difficile, sans doute. Hein. C'était très difficile, sans doute, de le faire. D'autant plus que j'ai pas l'impression, pour autant, d'avoir mal fait mon travail en ce qui me concerne. Et j'ai pas l'impression que d'autres historiens du fait guerrier, comme moi, aient mal fait leur travail. C'est pas cela, sans doute, ou pas exactement cela. C'est la réception. C'est la réception de notre discours, c'est la réception de nos livres, la réception de nos enseignements qui n'a pas été celle que nous pensions, très probablement. Nous sommes aujourd'hui devant le fait guerrier, effectivement, extraordinairement démunis.
Est-ce que, pour reprendre une question très vaste comme la première que je vous ai posée au début de cette émission, Stéphane Audouin-Rouzeau, c'est une question naïve aussi, hein. Mais le savoir ne sert à rien, ou plutôt l'enseignement du passé est incapable de nous prémunir, de nous éviter la reproduction du pire.
C'est à craindre. Je crois que c'est un des problèmes de l'histoire, c'est que sa capacité prévisionnelle est égale à zéro. Et donc, les historiens manquent d'outils hein, pour alerter. Hein, de ce point de vue, hein, c'est évident, c'est structurel dans leur
aussi
dans leur
en face des gens qui ne veulent pas entendre, vous le disiez souvent.
Je crois qu'il y a de cela. La guerre, c'est évidemment la part d'ombre hein, de nos sociétés, c'est des sociétés humaines, la guerre, c'est le tragique aussi de notre contemporain. Que nos contemporains ne veuillent pas entendre ce tragique, ne veuillent pas le voir en face, je le constate tous les jours. Et maintenant qu'il est là, bien devant nous, eh bien, nous continuons à ne pas vouloir tout à fait l'entendre. Je crois que c'est ça, au fond, qui rend la position d'un historien du fait guerrier comme moi un peu inconfortable. J'ai l'impression d'être rattrapé en ce moment par mes sujets de recherche, et d'autant plus rattrapé par mes sujets de recherche, c'est qu'il y a des passerelles étonnantes entre la Première Guerre mondiale et la guerre d'Ukraine qui se déroule sous nos yeux. Je suis à la fois rattrapé et en même temps, j'ai l'impression d'avoir prêché dans le désert. Et c'est une sensation étonnante, désagréable, et qui évidemment questionne beaucoup la manière dont on a travaillé pendant de longues années.
Je voudrais terminer en citant une phrase de Régis Debray dans un tract Gallimard, des musées aux missiles. La guerre, c'est quand l'histoire se remet en marche. La paix, c'est quand dominent les arts de la mémoire. Guerre et paix, ça alterne. Tout se passe comme si les grandes vacances allaient devoir se terminer en Europe, que nous sortions du régime mémoire pour aborder once again le régime histoire. Livre paru en 2022.
Il faut bien reconnaître que c'est assez bien dit. C'est assez bien dit. L'histoire avance par son côté noir. Et je crois que c'est exactement ce qui se produit actuellement. Qu'est-ce qui restera de nos travaux sur la guerre, sur la mémoire? Après l'épisode que nous venons de vivre, eh bien, c'est ce que nous ne pouvons pas dire, parce que, comme je le disais, l'histoire ne peut rien prévoir.
Merci beaucoup, Stéphane Audouin-Rozeau, pour ces entretiens.
C'est moi qui vous remercie.
C'était À Voix Nue, attaché de production Daphné Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.